pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous donne quelques nouvelles de John Rawls, philosophe américain, né en 1921 et mort en 2002. Il a laissé une contribution majeure à la réflexion politique, sa théorie de la justice. Publié en 1971 aux États-Unis, 16 ans plus tard, en 1987 en France, en pleine guerre du Vietnam et des mouvements civiques américains, cette théorie et son auteur, Rawls, sont alors devenus des références incontournables en philosophie mais aussi en politique. Avec lui se sont en effet reposées les questions classiques de ce qui fonde une société juste. Qu'est-ce que la justice? Est-ce une égalité stricto sensu ou une équité des conditions? En vertu de quels critères, matériels, économiques, politiques, mais aussi intellectuels et éducatifs, les citoyens peuvent-ils vivre à égalité? Et surtout, quel contrat faut-il imaginer afin que l'équité soit effective entre les membres d'une société dont les visions et les intérêts divergent? Hasard de calendrier, convergence inconsciente de la recherche ou véritable ère du temps politique, trois livres tout juste parus soulèvent à nouveau ces questions et mobilisent, travaillent, questionnent la théorie du philosophe américain. Parmi ceux-là, il y a l'essentiel ouvrage de Catherine Audard, traductrice de Rawls, « La démocratie et la raison, actualité de John Rawls », qui est paru aux éditions Grasset. Actualité de Rawls, c'est peu de le dire, tant la question qu'il pose de la justice et de l'égalité dans le cadre d'une société multiculturelle est d'une brûlante pertinence aujourd'hui, tout comme l'expérience de pensée qu'il avait imaginée pour justement dégager ces conditions de vie égalitaires avec lesquelles chaque individu serait d'accord, le voile d'ignorance, et qu'a justement convoqué un député québécois, Gabriel Nadeau-Dubois, en mai dernier.
Ministre, c'est comme moi que ce que fait John Rawls, c'est une expérience de pensée, hein? C'est pour ça qu'on le connaît beaucoup, l'expérience de pensée du voile d'ignorance ou de la position originelle, et c'est un outil philosophique que John Rawls utilise pour réfléchir à ce qui est juste et ce qui est injuste. Il cherche comme ça à définir les injustices. Et pour identifier les injustices sociales, John Rawls, donc, invente cette expérience de pensée, cette mise en situation théorique, philosophique, où il nous dit, bien, pour savoir ce qui est juste et injuste, il faut s'imaginer des citoyens et des citoyennes rationnels, mais placés dans une position d'ignorance quant à leur position réelle dans la société.
Diagnostic d'une fragilité de la culture politique, solution sous forme d'un idéal d'équité qui traite chacun de manière égale sans laisser personne à la traîne, mais d'abord métaphore centrale d'une position originelle, le voile d'ignorance donc, dans laquelle chacun aurait à choisir des principes de justice sociale sans connaître sa situation socio-économico-politique et en faisant seulement appel à sa raison, ce sont les trois temps forts de la pensée de John Rawls. Mais une chose est de nommer ces trois choses, une autre de les comprendre puis de les utiliser. Comment alors s'en servir aujourd'hui au-delà du contexte des Trente Glorieuses dans lequel a rédigé John Rawls? Comment les comprendre pour ensuite les utiliser? Illustration avec la suite de l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois qui a interpellé le ministre québécois de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, en pleine commission de l'économie et du travail.
Est-ce que le ministre croit que dans une telle situation, des citoyens et des citoyennes libres choisiraient, placés sous le voile d'ignorance, de vivre avec un peu plus de 400 $ par mois? Parce qu'en vertu de la loi qu'il a pilotée, du projet de loi 70, une personne qui subirait trois pénalités en vertu du programme Objectif emploi devrait survivre avec à peine plus de 400 $ par mois. Alors, ma question pour le ministre est très simple. Est-ce que, placé sous le voile d'ignorance, devant décider de ce qui est juste et injuste, est-ce que le ministre de la Solidarité sociale jugerait qu'il est juste qu'une personne survive en fait, avec à peine plus de 400 $ par mois?
Dans son ouvrage, Catherine Audard accorde une large place à cette position originelle comme lieu de pensée où chacun est appelé à revêtir ce voile d'ignorance pour mieux accoucher de principes de justice. Et cet extrait en témoigne, il y a une force opératoire de cette expérience de pensée, au-delà du contexte de rédaction de Rawls, au-delà des problématiques contemporaines qu'il connaissait. Faites-en vous-même l'expérience. Si vous ne saviez rien aujourd'hui de vous, quel choix rationnel, raisonnable et libre feriez-vous pour ne pas être soumis à l'arbitraire du destin ? Dans un autre livre tout juste paru sur John Rawls, La gauche américaine en France sur la réception de Rawls et des théories de la justice, Mathieu Hochkorn suit la diffusion de la pensée rawlsienne en France, dans les cercles académiques et comme affirmation d'une gauche américaine non marxiste. On y voit comment la lecture de sa théorie a été tributaire du contexte idéologique. Mais ce faisant, apparaît également une plasticité des concepts de John Rawls. De là, à y voir une force d'adaptation de ses thèses et une application encore possible, il n'y a qu'un pas. Et pour découvrir tous les concepts de John Rawls, vous pouvez donc lire « La démocratie et la raison » de Catherine Audard, c'est paru aux éditions Grasset, « La gauche américaine en France » de Mathieu Hochkorn, c'est aux éditions du CNRS, et puis je n'en ai pas parlé, mais « La division du travail revisité vers une théorie sociologique de la justice », c'est aux éditions du Bordelot, et c'est par Anne Rawls, la fille de John Rawls.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.